Couture dans le mythe.
Avec Pierre Couture.
Everyone.
Et Nick Cloutier.
Radio X.
Ouais, ben ça continue cette campagne électorale-là municipale.
Eh oui.
Pour la ville de Québec. Et là, ben c'est Sam Hamad qui a invité en fin de semaine Stéphane Lachance à se retirer. Et la réponse a été non.
Fin de non-recevoir.
On essayait de, peut-être de trouver une espèce de compromis où on pouvait fusionner peut-être les deux partis politiques opposés à Bruno Marchand. C'est pas ça qu'on voit, là.
C'est pas ce qu'on voit.
Et la tendance, c'est que Sam Hamad descend dans les intentions de vote et...
Lachance monte.
Stéphane Lachance monte. Là, il y a une tendance. Moi, j'ai hâte de voir, mais qu'on arrive à égalité, vas-tu être capable de reparler? Mais il reste deux semaines, là. C'est à toute fin pratique. C'est comme jouer, là. Le scénario, il aurait fallu l'écrire peut-être avant que pendant, là.
En effet. Mais qu'est-ce que tu veux? Là, on est là, là. On est dedans, là.
Exact.
On le voit, les chiffres. Ben, y a un sondage qui est sorti, là. Un seul.
Ben, un seul commandé par les... Ben, en fait, deux, là. Il y en a eu.
Ouais. Non, mais je veux dire, depuis le début de la campagne officielle. Là.
Ouais. Ben, il y en a eu au début de la campagne, Léger, Journal de Québec, je pense. Puis là, tu en as eu un commandé par le bureau du maire. Mais là, on peut-tu avoir un sondage commandé par, exemple, l'équipe de Stéphane Lachance?
Ouais.
Par Léger.
Et où, sa maman?
Ben oui, puis essayer de voir. Puis c'est sûr que là, faut voir qui commande le sondage. Ça, des fois, il y a un bonus à ça. Voilà, hey, notre chroniqueur, il est là.
Yes.
Chronique politique avec Rodolphe Osny.
Rodolphe, comment vas-tu?
Bonjour Pierre, bonjour Nick, bonjour Québec.
Allô.
Je vais bien, j'ai passé un bon long week-end, mais là, il faut rentrer tous les meubles de patio.
Ben oui.
Voilà, non, on est rendu là. les meubles de patio, oui, hier, ils étaient tous en Égypte, les meubles de patio, hein, derrière Trump.
Je ne l'avais pas vu venir. Alors, oui, le premier ministre Carney, d'ailleurs, juste pour dire la petite parenthèse, le premier ministre Carney était en Égypte. Là, il est en train de revenir.
Ouais.
Mais il a failli ne pas y aller parce qu'il n'y avait pas d'avion disponible ou d'équipage disponible. Nos forces royales canadiennes, je ne sais pas s'ils étaient en break pour le long week-end de l'Action de grâce, donc il a dû affréter un avion pour pouvoir y aller. Il n'a pas pris les avions militaires ou les avions VVIP qu'on appelle. Parce qu'ils n'étaient pas disponibles, alors il a failli ne pas se rendre en Égypte, le premier ministre Carney.
Ah, c'est pas drôle, hein?
Écoute, je t'ai dit, on est pognés, là. Ça veut dire, c'est soit ils sont pas disponibles, soit ils tombent en panne comme Justin Trudeau. Alors, écoute, c'est normalement, en plus, c'est des nouveaux avions. Je sais pas ce qui s'est passé, comment ça se fait. Je crois pas que la gouverneure générale voyageait. Normalement, c'est elle qui en prend un aussi. Mais écoute, normalement, il n'y en avait pas de disponibles. C'est un peu bizarre, parce que normalement, il y en a trois.
Ouais. Et là, on comprend. Qu'est-ce que tu décodes là, de cette espèce d'annonce de Trump qui jubilait là, avec tous les pays en arrière de lui, les Emmanuel Macron de ce monde et autres, là, Erdogan de la Turquie aussi. Comment tu t'analyses ça pour la suite des choses?
Ben écoute, je pense tout d'abord qu'il faut reconnaître le travail que M. Trump a fait, la pression qu'il a mis, le fait que maintenant, les otages qui étaient vivants ont été libérés et qu'on est en train de rendre les dépouilles aux familles,
ouais,
et l'échange des prisonniers. Donc déjà ça, je pense que c'est un grand, grand, grand point. Je pense que M. Trump a mis beaucoup de pression sur Israël. On se souvient aussi qu'il avait réussi à faire qu'Israël s'est excusé au Qatar, puis ça a changé aussi beaucoup la dynamique. Je pense que maintenant, on est prêt à une autre étape, mais c'est l'étape la plus difficile. Ça veut dire comment on va reconstruire Gaza, qui va être responsable, est-ce qu'on va réussir à désarmer le Hamas. Donc, tu vois, c'est des grosses, grosses questions. Mais quand même, après deux ans comme ça, d'avoir réussi à libérer les otages, je pense que c'est un grand plus pour M. Trump. Il faut maintenir maintenant le momentum, maintenir la pression et surtout s'assurer qu'il y a comme ça ce front uni qu'on a vu ce week-end à Sharm el-Sheikh, avec aussi beaucoup les pays arabes et la Turquie, ben, continue ce front commun pour réussir à avoir une solution et surtout ben, faire la reconstruction, peut-être possiblement faire des élections aussi. Il ne faut pas l'oublier, il n'y a pas eu des élections même sous l'autorité palestinienne depuis plus d'une quinzaine d'années, je pense.
Puis là, ben, c'est une force internationale, mais sous le contrôle de Trump. Il ne veut pas y aller avec l'ONU. Clairement, il ne trosse pas l'ONU, là, donc les Canadiens. Moi, je pense qu'il y a la photo de famille qu'on a vue là. Ben, c'est pas mal tous ces gens-là qui vont jouer un impact. Là. On va envoyer des militaires, hein, sûrement. Là. Ça va être ça, la prochaine étape, parce qu'on doit s'organiser rapidement, là.
Oui, non, c'est pour ça. Donc, on va voir les prochaines étapes et ça va être très, très important de voir quelle forme d'administration ça va avoir lieu et surtout qu'on ne perde pas comme ça le momentum le bon vouloir, on va dire, de toutes les parties.
Parce que Trump, hier, était de bonne, comment dire, de bonne humeur. Il a envoyé à gauche et à droite des jabs. Il a pogné Macron. Il a dit « T'es où, Macron? Là? T'es pas dans photo, là? » Après ça, il a le premier ministre d'Angleterre, il l'a amené au micro. Il a tourné le dos tout de suite après. Il a vanté Mélanie. Il y a quand même un échange avec Carney où il l'a traité de président, là.
Oui, alors quand le président Trump a référé à M. Carney, au lieu de l'appeler premier ministre Carney, il l'a appelé président Carney, ce que M. Carney ensuite il a dit sur le ton de la blague en disant « Merci pour la promotion de m'avoir donné le titre de président ». Et quand M. Trump a réalisé ça, il a dit en rigolant, il a dit « Au moins, je t'ai pas appelé gouverneur ». Parce qu'on se souvient que c'était le titre qu'il utilisait pour parler de Justin Trudeau.
Exact.
Donc, on voit quand même qu'il y a une bonne entente entre M. Trump, où il était de bonne humeur, M. Trump, à faire des blagues comme ça avec M. Carney lors du sommet de Sharm el-Sheikh.
Et là, pour Carney, ben là, c'est « back to reality », le voyage de retour dans l'avion. Après moi, il y a pas mal de dossiers, ça pile.
Oui, écoute, il y a trois dossiers très importants que je voulais vous en parler, puis ça a rapport bien évidemment à l'international. Un, c'est bien évidemment la relation Canada-Chine. Ça aussi, ouais. C'est un dossier que ça fait longtemps qu'on n'en a pas parlé. On sait que les exportations de l'agriculture, surtout par exemple le blé, le canola, sont frappées de tarifs très, très importants de la Chine et que le Canada regarde à voir comment on va normaliser cette relation avec la Chine. On se souvient bien évidemment de tout ce qui s'est passé aussi concernant l'ingérence étrangère. Ben là, il y a l'ambassadeur chinois à Ottawa qui a fait une déclaration ce dimanche à la télévision et il a dit « Écoutez, si vous voulez qu'on enlève les tarifs des exportations d'agriculture canadienne en Chine, ben c'est facile, vous avez juste à enlever les tarifs sur les voitures électriques chinoises que le Canada impose. » On se souvient que c'était une mesure qui avait été prise en même temps que l'administration Biden à l'époque. Donc ça, c'est quand même un gros dossier, surtout que la ministre des Affaires étrangères va aller en Chine. Ouais. C'est aussi une visite très, très importante. Et à la fin du mois, il y a un sommet de l'Asie-Pacifique en Corée du Sud où normalement le président chinois et le premier ministre Carney vont assister. Donc ça va être la grande question. Est-ce qu'il y aura une rencontre face à face, une bilatérale, comme on appelle, entre la Chine et M. Carney, le premier ministre Carney? Il faut savoir que lorsqu'il y avait eu la réunion des Nations Unies à New York, il y a eu une réunion rapide entre le premier ministre Carney et le premier ministre chinois. Alors, on va voir à quel niveau cette relation diplomatique Canada-Chine va être ravivée ou pas.
Ben, tu te souviens quand le président, le premier ministre, c'est le président de la Chine qui avait pogné Justin Trudeau.
Oui, oui.
Et on avait les caméras et il avait donné un savon. Je suis pas sûr qu'il va faire la même chose, mettons, avec Carney. Là. Et, au niveau protocolaire, c'est pas Justin Trudeau, là, Carney, dans la mesure où... Au niveau international, je pense qu'il y a une cote. Carney a une cote peut-être supérieure à Trudeau parce qu'il s'était fait donner une reine solide. Là.
Oui, tout à fait. Puis c'était à peu près le même sommet, là, ce sommet de l'Asie-Pacifique qui a lieu chaque année. Puis il ne faut pas oublier quand même que M. Carney est quand même allé aussi en Chine plusieurs fois à Dédian lorsqu'il était président de Brookfield, avait fait des investissements en Chine. Donc, oui. Je pense qu'il est déjà beaucoup plus respecté du point de vue d'homme d'affaires et ancien gouverneur et maintenant comme premier ministre du Canada.
Et parlable.
Parlable.
Ouais, exactement. Oui, exactement. Donc, ça va être à suivre, cette histoire-là. F-35 Canada, USA, c'est quoi la suite?
Bien, c'est ça qui est intéressant parce qu'on a demandé à la générale qui est en chef, la chef d'état-major sur les F-35. Et on lui a dit qu'est-ce qui se passe avec les F-35 parce qu'il faut savoir que le gouvernement Carney avait dit on va réévaluer le contrat ou le contrat est en révision juste pour le bénéfice de nos auditeurs. Ce fameux contrat des F-35, ça avait été annoncé par le gouvernement Harper, ça avait été annulé par le gouvernement Trudeau, ça avait été réannoncé par le gouvernement Trudeau à la fin. Et le gouvernement Carney, avec le conflit commercial qu'on a dit attendez, on va regarder, peut-être qu'on n'achètera pas tous les F-35, etc., etc. Ben, en tout cas, la générale Carillon lui a posé la question, puis elle a dit, écoutez, moi, pour moi, là, je continue et que nos pilotes vont aller en entraînement aux États-Unis dans les prochains mois et qu'il y a des investissements qui doivent être faits, par exemple, pour des nouveaux hangars pour les F-35. Et pour l'instant, l'armée canadienne continue. Donc, est-ce que d'un côté, il va y avoir révision ou pas? Est-ce qu'il y aura diminution du contrat pour l'armée? Il continue.
F-35, c'est-tu Boeing, ça?
Oui.
Et Boeing ouvre des centres.
C'est Lockheed Martin, je pense.
OK, c'est Lockheed Martin. Mais tu as Boeing, c'était des gros contrats avec Boeing aussi, là, qui sont très, très stratégiques avec le Canada.
Oui, ça, c'est le Poséidon. Ça, c'est l'avion de surveillance qu'ils ont signé avec Boeing, qui doivent normalement ouvrir un centre de recherche au Québec et au Canada.
Exact.
Exactement.
Donc, il y a beaucoup là, de suivi à ce niveau-là. Tu me dis, aujourd'hui, à Terre-Neuve, élection quand même importante. Là. L'entente avec Hydro-Québec, ça passe ou ça casse aujourd'hui?
Ben oui, ça va être intéressant de regarder ce qui se passe du côté de Terre-Neuve ce soir, parce que le gouvernement libéral demande sa réélection. Et c'est ce même gouvernement qui a conclu l'accord avec François Legault concernant, un, de régler le différend qui datait de plusieurs dizaines d'années et concernant la centrale hydroélectrique et possiblement d'en faire une nouvelle, Goyle Island, etc., etc. Donc, on va voir qu'est-ce qui va se passer. Est-ce qu'il y aura un changement de gouvernement ou pas? Ça va être quand même intéressant parce que c'est aussi un des... qu'on appelait un peu, possiblement un des gros legs de François Legault d'avoir réussi à régler le différend avec Terre-Neuve, mais pour l'instant, c'était une entente qui n'avait pas été ratifiée par aucun des deux gouvernements.
Oui.
Et là, on va voir avec cette élection si le gouvernement libéral va être reconduit au pouvoir ou pas, parce que ça pourra avoir un impact sur la future centrale électrique.
Oui, puis on rappelle la population de Terre-Neuve-Labrador, 548 842 habitants. C'est l'équivalent de la ville de Québec.
Oui, bien écoute, l'île du Prince-Édouard, je pense que c'est même pas 200 000 personnes.
Exact.
C'est un premier ministre aussi. Il y a des maires qui sont... Je pense que j'ai déjà rencontré le premier ministre de l'île du Prince-Édouard qui m'a dit qu'il y a des maires dans certaines villes qui ont plus d'électeurs que moi.
Oui, exact. pipeline vers la Colombie-Britannique, ça aussi, là, il y a des gens plus favorables que d'autres.
Oui, et c'est ça qui est intéressant, parce que tu sais, on a parlé de la visite de Daniel Smith, puis on a parlé la semaine dernière, puis il y a deux semaines, de ce fameux projet de pipeline vers la Colombie-Britannique. La Colombie-Britannique et le premier ministre de la Colombie-Britannique s'opposent. Bien, il y a un sondage intéressant qui est sorti de Angus Reid qui disait que 59 % des Canadiens seraient en accord d'avoir un pipeline qui irait de l'Alberta vers la Colombie-Britannique. Et attention, surprise, même en Colombie-Britannique, ce serait 58 % versus 33 % qui seraient contre. Donc, ça veut dire que, oui, on entend que le premier ministre de la Colombie-Britannique dit qu'il n'y est pas d'accord, mais si on fait des sondages, on voit qu'il y a quand même un accord, même un support, même en Colombie-Britannique, à 56 % versus 33 % contre. Mais pour l'instant, comme on l'a dit, il n'y a pas de promoteur privé. Daniel Smith veut faire le travail de faire changer des lois et de mettre en avant ce projet, surtout de forcer le gouvernement fédéral et ce fameux bureau des grands projets à prendre position pour ensuite qu'un investisseur privé prenne le relais.
Ouais, parce que si le projet passe à C5, par C5, là, ça peut aller très vite, là.
Oui, mais il faut surtout aussi qu'on enlève ce qu'on appelle, il y a une interdiction pour les grands bateaux, les pétroliers sur la côte de la Colombie-Britannique, etc., etc. Mais et il y a aussi des Premières Nations qui ne sont pas d'accord, donc ce serait intéressant de voir est-ce que le fédéral va vraiment utiliser ses fameux pouvoirs pour accélérer à suivre.
Oui, puis tu as Keystone XL aussi, parce que la semaine dernière, on le rappelle, là, mais Carney était de passage à Maison-Blanche. On dirait que ça fait 6 mois de ça, là. Mais c'est juste la semaine dernière que c'est arrivé. Et on dit qu'en coulisses, on parlait peut-être de relancer Keystone XL. On verra, là, mais ça parle pas mal plus de pipeline puis de gazoduc que là, quelques mois, mettons. Là.
Ah oui, oui, tout à fait. Ça a créé quand même la surprise que Mark Carney parle du projet de Keystone Pipeline, le fameux pipeline pour augmenter la production et l'exporter vers les États-Unis. Il faut savoir que ça a été bloqué par Obama, ça a été approuvé par Trump, ça a été rebloqué par Biden. Et là, maintenant, on va voir qu'est-ce qui va se passer avec l'administration Trump. Et surtout, est-ce que nous, du côté canadien, ça avait déjà été approuvé déjà à l'époque de Stephen Harper?
Voilà. Puis, on parle quand même de 1 000 milliards d'investissements canadiens aux États-Unis. Ça, c'est de la musique aux oreilles de Trump, là.
Oui, oui. Moi, j'ai l'impression que cette phrase-là, c'était vraiment pour M. Carney de parler le langage de Trump, surtout quand il dit « on va parler d'énergie ». Bien, si vous voulez faire Keystone de votre côté, bien, le Canada serait d'accord.
Voilà. Rodolphe, tu es salué.
Merci.
Salut.
À bientôt.
Bonne semaine. Voilà. Salut. Rodolphe Osni, notre chroniqueur politique maison. Très bon, Rodolphe. Donc voilà, après la pause, on ouvre les lignes.
Oui, et la bonne nouvelle de la semaine, encore une fois, c'est que chaque fois que vous participez à la ligne ouverte cette semaine, vous pourriez mettre la main sur 100 $ à dépenser chez Benny.
Ouais, moi, j'ai le goût d'aller politique municipale. C'est parce que là, sa maman a demandé à Stéphane Lachance
de
se retirer. Là, de ce que je comprends, c'est que l'équipe de sa maman aurait peut-être aimé que Lachance se retire puis qu'on y aurait peut-être dit, ben si tu es élu par ton colistier, ben tu auras peut-être un poste important à l'Hôtel de Ville. Si sa maman rentre, évidemment. Là. Et du côté de Lachance et de Respect citoyen, on préférait l'inverse.
Mm-hmm.
Mais la question, qui doit abandonner?
Est-ce qu'ils doivent abandonner?
Ouais.
Pensez-vous qu'un des deux doit abandonner? Si oui, qui? Sinon, est-ce que les deux continuent d'y aller all-in?
Ben, moi, je pense que c'est ça qui va arriver, là, de toute évidence. Là. Mm-hmm. Tout le monde y va all-in. Un qui monte, un qui descend. Je sais pas, on va voir les tendances qui se dessinent. Mais si Stéphane Lachance, dans le prochain sondage, est rendu à 14, 15, 16, ou 18, ou 20, puis sa maman descend à 10,
ouais,
12...
Là, peut-être...
Comprends? Ça peut être ça aussi, là.
Écoute, tout est possible.
Mais
reste deux semaines.
Ouais,
tout est sur la table.
Et là, aussi, c'est qui commande les sondages, là? Ça, mm-hmm. C'est une autre direction. Donc...
Donc, voilà, 88-670-9098. On attend votre appel.
On revient après la pause.
Couture.
On fait une petite pause, puis on revient dans pas longtemps.
Dans le mid, Radio X.